Vous écoutez, on lit pour vous.
20 juin, Journée mondiale des réfugiés. Un texte de la rédaction paru sur le site web de l'ONU. Pour un monde qui accueille les personnes réfugiées. Tous les ans, le 20 juin, la Journée mondiale des réfugiés est l'occasion de saluer la force et le courage de celles et ceux qui ont été forcés de fuir leur pays d'origine pour échapper au conflit ou à la persécution. En 2024, le thème choisi pour célébrer la journée 2024 était « Pour un monde qui accueille les personnes réfugiées ». Aujourd'hui, plus que jamais, les réfugiés ont besoin de notre solidarité. Faire preuve de cette solidarité, c'est garder nos portes ouvertes, reconnaître les atouts et les réalisations des personnes réfugiées et réfléchir aux défis auxquels elles sont confrontées. Être solidaire avec les personnes contraintes de fuir signifie également chercher des solutions à leur situation. Mettre fin au conflit pour qu'elles puissent rentrer chez elles en toute sécurité. Veiller à ce qu'elles aient la possibilité de se reconstruire au sein des communautés qui les ont accueillies et fournir aux pays d'accueil les moyens dont ils ont besoin pour accueillir et venir en aide aux réfugiés. Un même objectif, des contextes différents. Chaque minute, 20 personnes doivent tout abandonner pour échapper à la guerre, à la persécution ou à la terreur. Bien que l'objectif soit le même, se mettre en sécurité, il existe plusieurs types de personnes déplacées dans le monde. Réfugiés. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, le terme « réfugié » fait référence à toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays. Ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de la dite crainte, ne veut y retourner. Demandeur d'asile. Les demandeurs d'asile ont besoin d'aide et de conseils essentiels pour la procédure d'octroi du statut de réfugié. Il incombe aux systèmes nationaux d'asile de décider quels demandeurs d'asile peuvent effectivement prétendre à une protection internationale. Ceux dont on estime qu'ils ne sont pas des réfugiés ou qu'ils n'ont pas besoin d'une autre forme de protection internationale à l'issue de procédures adéquates peuvent être renvoyés dans leur pays d'origine. Personnes déplacées internes. Les personnes déplacées fuient en quête de sécurité dans d'autres régions au sein même de leur pays où ils ont besoin d'une aide. On utilise souvent, de façon erronée, le terme de réfugié pour désigner les personnes déplacées internes. Contrairement aux réfugiés, les déplacés internes n'ont pas traversé de frontières internationales pour chercher asile dans un autre pays. Ils sont restés dans leur pays. Même s'ils ont fui pour des raisons similaires à celles des réfugiés, conflits armés, violences généralisées, violations des droits humains, les déplacés internes demeurent légalement sous la protection de leur propre gouvernement, ce gouvernement constituant parfois lui-même la cause de leur fuite. En tant que citoyens, les déplacés internes conservent l'ensemble de leurs droits, dont celui à la protection en vertu des droits humains et des principes du droit international humanitaire. Apatrides. Des millions d'apatrides sont pris au piège dans un vide juridique avec des droits fondamentaux limités. L'apatridie a également un impact terrible sur la vie des personnes. La possession de la nationalité est essentielle pour participer pleinement à la société et c'est une condition préalable à la jouissance de l'ensemble des droits humains. Rapatriés. Les rapatriés sont les personnes de retour chez elles. C'est la meilleure des solutions durables. Pour de nombreuses personnes déracinées, le rapatriement librement consenti dans la sécurité et la dignité, marque le dénouement heureux d'un traumatisme. Parmi les autres solutions durables que le HCR recherche pour les réfugiés, la réinstallation dans des pays tiers ou l'intégration locale dans le pays d'accueil sont uniquement accessibles à une minorité de réfugiés. De mes propres yeux. En 2024, environ 123 millions de personnes dans le monde ont été déplacées par la guerre, la violence et la persécution. Ce film est une reconstitution du récit de voyage d'une réfugiée et de son espoir d'un avenir meilleur. Il a été réalisé grâce à la participation d'acteurs. L'action de l'ONU. Le HCR vient en aide aux réfugiés depuis sa création en 1950 par l'Assemblée générale des Nations unies. Le cadre juridique pour aider les réfugiés et le statut pour guider le travail du HCR ont été adoptés l'année suivante. C'est la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et le Protocole de 1967 qui lui est associé qui permettent de leur fournir une protection. La Convention et le Protocole constituent les principaux accords internationaux sur la protection des réfugiés et couvrent les aspects les plus importants de leur vie quotidienne. Certains droits fondamentaux, notamment le droit d'être protégé contre le refoulement, s'applique à tous les réfugiés. Cependant, l'étendue et l'accès à certains droits peuvent varier en fonction de la durée du séjour dans le pays d'accueil. C'était, 20 juin, Journée mondiale des réfugiés, un texte de la rédaction paru sur le site web de l'ONU.
Revenir au respect par le « vous » est un chemin qui mène à un cul-de-sac, un texte de Céline Lamy, paru le 6 mai 2025 dans Le Devoir. Céline Lamy est pédopsychiatre et l'instigatrice du collectif « L'enfance n'est pas une maladie ». Elle a publié « Le drame des enfants parfaits » chez Atelier 10. Nous sommes en 1988. Et François, mon ami d'école, répond à notre enseignant qui l'a traité de stupide animal. « Monsieur, je vous emmerde. » Il a été puni sévèrement. Mais rassurons-nous, il a dit « vous ». Ce « vous » ne change rien au fait qu'un élève respecte ou pas l'adulte. On le voit bien ici. Le respect, c'est tellement plus que ça. Cela part d'abord de la façon dont nous établissons le lien avec les enfants. Les nostalgiques, parmi les tenants du « les jeunes de maintenant » et du « tout foulka », en appellent au retour de l'éducation coercitive, se faire respecter par la crainte, la menace, la punition. Ceux-là se satisferont donc du « vous » comme d'une mise à distance qui, si on lit leurs commentaires, indique qui est le chef et remet l'enfant à sa place, comme on renvoie le chien à sa niche. Nous sommes en pleine position infantiste, celle qui voit l'enfant comme un être inférieur, incomplet, qui ne gagnera son salut qu'en devenant adulte, après un dressage. Le « vous » est ici un siège de confort rassurant pour l'adulte qui se croit respecté, mais qui est secrètement ou pas détesté. Nous connaissons très bien cette éducation qui nous oblige à courber l'échine et à plier, étouffant notre singularité et nous forçant à être performants pour faire plaisir. Je fais partie de ces générations qui disaient « vous » à tous les adultes, mais qui, en sourdine, maudissaient ces injustices crasses et qui, presque 50 ans après, se disent qu'elles auraient dû plus souvent dire « je vous emmerde ». Et puis, il y a l'adulte qui n'a pas besoin de se faire craindre pour se faire respecter ou établir une distance artificielle avec le « vous ». Le respect est naturel dans sa relation avec l'enfant, car celui-ci se sent accueilli, reconnu, entendu dans ce qu'il est. Et respecté aussi. Pas un stupide animal. C'est un respect mutuel. Je te vois et je t'honore comme humain. Je suis effectivement ton guide, vrai sens de la discipline, et garde mon autorité au sens de celui qui souffle à l'oreille d'eux. Mais je n'ai pas besoin d'un ascendant sur toi pour cela. D'ailleurs, je sais que, pour que tu apprennes, tu dois te sentir en sécurité avec moi et pas en hypervigilance. Ça prend donc aussi des adultes sur deux qui comprennent la nature de l'enfance et ne se sentent pas menacés par l'existence de ces êtres grandissants et apprenants. C'est donc toujours et encore une question de lien. Nous vivons dans une triple crise du lien, coupé des autres, du vivant et de nous-mêmes, que l'on s'adresse à l'autre par un « vous » ou un « tu », c'est le même fossé qui se creuse entre nous tous. C'est le même isolement de chacun dans sa tanière et dans ses certitudes. C'est de ce fossé que nous devons nous préoccuper. C'est à lui que nous devons réfléchir. C'est ce fossé qui fait réagir nos enfants, nos jeunes d'abord. C'est ce qu'ils me disent chaque jour dans mon bureau, cette distance, ce sentiment de solitude. On n'a jamais été aussi outillé pour nos jeunes et paradoxalement aussi éloigné d'eux. C'est aussi ce qui les fait se précipiter vers d'autres, malveillants influenceurs et sirènes numériques qui, eux, leur donnent le sentiment d'une proximité, qui leur donnent le sentiment de garder encore des liens, malheureusement. Alors, devons-nous lancer des ponts de corde tressés de Madame vous ou Monsieur vous pour traverser ce fossé? On risque d'être bien déçu de l'efficacité de cette idée sur l'ambiance dans la classe. On peut-tu s'en reparler fin décembre 2025 pour faire un premier bilan, Bernard? Pardon, me feriez-vous l'extrême obligeance de bien vouloir en reparler avec nous sous peu, Monsieur le ministre? C'était « Revenir au respect par le vous est un chemin qui mène à un cul-de-sac », un texte de Céline Lamy, paru le 6 mai 2025 dans Le Devoir.
Faire de l'alphabétisation une priorité nationale pour contrer l'incertitude économique, un texte de Mélanie Valsin paru le 30 avril 2025 dans Le Devoir. L'autrice est présidente directrice générale d'United for Literacy, Literacy Ensemble. Elle siège également au conseil d'administration du Devoir. Sa position lui appartient et n'engage pas le CA. De nos jours, lorsque nous pensons à la croissance et à la résilience économique, nous nous tournons souvent vers l'innovation, le commerce et la technologie. Il est rare que nous nommions l'alphabétisation comme l'un des tenants incontournables de la prospérité de nos communautés. Pourtant, la capacité de lire, d'écrire, de comprendre les chiffres et de résoudre les problèmes des individus est l'un des outils les plus puissants dont nous disposons pour bâtir un pays plus fort et plus équitable. Le Programme pour l'évaluation internationale des compétences des adultes, PEICA, de 2024, a révélé qu'au Canada, un adulte sur cinq en âge de travailler éprouve des difficultés avec des compétences de base en lecture et en écriture. Cela représente des millions de personnes au pays. Il ne s'agit pas seulement de statistiques. Ce sont des parents qui tentent d'aider leurs enfants à faire leurs devoirs. Des travailleurs qui essaient de comprendre des consignes de sécurité, des électrices devant leur bulletin de vote, des gens qui gèrent leurs finances au quotidien. Malgré leur importance, les résultats du PEICA, publiés discrètement en décembre dernier, n'ont guère attiré l'attention des médias et des gouvernements. Pourtant, ils devraient tous nous mobiliser. En effet, l'écart en matière de littératie persiste et s'est même creusé au cours des 10 dernières années. Si nous ne réagissons pas, cela signifie accepter que près de 20 % des adultes canadiens continuent d'être exclus de la pleine participation à la société. Je refuse d'accepter l'inacceptable. En lisant la chronique d'Émilie Nicolas sur la disparition possible du centre Nrive, publiée le 24 avril 2025, j'ai ressenti l'urgence de soumettre cette lettre d'opinion. Son texte nous rappelle avec justesse que l'alphabétisation est bien plus qu'une compétence individuelle. C'est un pilier de dignité, d'inclusion et de justice sociale. Des répercussions économiques. Comme le Canada fait face à une hausse de l'inflation, à des défis mondiaux de nature diverse et à des changements technologiques rapides, les conséquences d'un faible niveau de compétence en littératie ne sont pas que personnelles. Elles ont des répercussions sur l'économie dans son ensemble. La recherche montre qu'une hausse de 1 % du niveau de littératie pourrait accroître le produit intérieur brut du Canada de plus de 50 milliards de dollars et la productivité nationale de 5 %. L'alphabétisation est donc un levier extraordinaire que nous ignorons à nos risques et périls. C'est aussi une question d'équité. L'écart entre les personnes qui maîtrisent la littératie et celles qui en sont privées reflète des inégalités plus profondes liées aux revenus, à l'éducation, à la langue ou à l'expérience migratoire. Si nous voulons parler sérieusement d'inclusion, d'égalité des chances et de prospérité pour tous, nous devons mettre l'alphabétisation au cœur de nos stratégies de croissance et de résilience. Il y a plus de 20 ans que je travaille dans ce domaine et je constate tous les jours la façon dont l'alphabétisation peut s'avérer transformatrice. Au fil des ans, j'ai rencontré des milliers de personnes qui sont déterminées à apprendre et à contribuer, mais qui ont été laissées pour compte par des systèmes qui n'ont jamais été conçus pour elles. Je pense à Tricia, qui, en mars dernier, m'expliquait « Je veux apprendre la menuiserie pour pouvoir réparer des choses chez moi. Je veux aider les autres à découvrir des livres et à se sentir mieux. Je veux montrer aux autres qu'ils peuvent aussi apprendre de nouvelles choses. » Les mots de Tricia illustrent comment la littératie change tout. Elle donne confiance, elle permet de faire des choix, elle ouvre des portes. J'invite donc tous les ordres de gouvernement à reconnaître que l'alphabétisation est fondamentale pour le développement économique et l'engagement citoyen. Je leur demande de soutenir les programmes communautaires qui rejoignent les personnes les plus touchées par les inégalités. Je demande aussi aux employeurs d'investir dans la formation en compétences essentielles et de voir cet investissement comme une contribution à la prospérité collective. Enfin, j'invite chacun et chacune d'entre nous à se mobiliser. Nous devons faire un choix maintenant. Continuer d'ignorer une crise silencieuse ou décider que chaque personne a droit à des programmes d'alphabétisation et de francisation de qualité. C'est essentiel pour bâtir une société plus juste, plus prospère et plus inclusive. C'était « Faire de l'alphabétisation une priorité nationale pour contrer l'incertitude économique », un texte de Mélanie Valsin paru le 30 avril 2025 dans Le Devoir.
Dérouté, une chronique de Félix Morin, paru le 10 février 2025 dans Les libraires. À la fin de ma première chronique, « Ce que peut l'essai », je citais Patrick Boucheron. Dans « Ce que peut l'histoire », il soutient l'idée que la tourmente de notre époque se présente sous deux formes, celle des bavardages incessants et celle des grands silences apeurés. Depuis le 5 novembre 2024, je suis dans le second camp. Seul dans mon salon, j'avais cette impression de fin du monde. Pas tout à fait un effondrement, mais le début d'une chute. Alors que le chiffre du carré rouge ne cessait d'augmenter, C'est un crépuscule que je voyais à l'écran. J'écoutais les experts à la télévision tenter, tant bien que mal, d'expliquer ce qui était pourtant tristement prévisible. Secoué, j'ai écrit à celle que j'aime pour lui dire que tout irait bien. Expression d'adulte pour cacher la peur. Et j'ai tenté de trouver le sommeil. Le lendemain, j'ouvrais mon portable avant le premier café. Grave erreur. Le bruit du monde battait son plein. La route que nous suivions. La seule manière que je connaisse de briser mon silence et de faire taire le bruit du monde, c'est d'ouvrir un livre et d'écouter la parole d'une autrice ou d'un auteur. C'est donc avec ce vague à l'âme que j'ai lu le livre de Catherine Mavrikakis, « Sur les routes », paru tout juste avant l'élection américaine. Elle y raconte sa première lecture du roman « La route » de Cormac McCarthy. Elle écrit que cette dystopie où tous les chemins réels et métaphoriques vers l'avenir ont disparu l'a ravie à l'époque. Elle ajoute « Nous en avons, me dis-je, enfin terminé avec l'imaginaire américain de la route et du progrès. » Elle mentionne fort justement que l'imaginaire de la route dans la littérature américaine est porté par une foi en un avenir meilleur, un futur plus accueillant. Chez McCarthy, la route ne mène nulle part. C'est l'errance, la souffrance et la destruction qu'on y retrouve. Nous n'en sommes pas là. Mais je pense qu'une partie de l'anxiété qui m'habite vient de ce sentiment que l'avenir s'assombrit. Dans son discours de réception du Nobel, Camus dit que « chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. » Depuis le 5 novembre, j'ai le sentiment d'avoir échoué. J'ai beaucoup d'empathie pour celles et ceux qui disaient être portés par un désir de changement lors de leur vote. Cependant, j'ai l'impression que dans cette expression, le mot « désir » est le plus important. Or, ce que je vois présentement au sud de notre frontière, mais aussi ici, c'est la peur, la tristesse et le ressentiment. On ne va jamais bien loin sur la route des passions tristes. Habiter les ruines. Le 22 février 1942, Stefan Zweig se donnait la mort au Brésil. Il n'a jamais été capable de supporter le monstre que l'Europe venait d'engendrer. La tristesse était trop grande et le deuil impossible. Quelque temps auparavant, il travaillait sur un livre qui allait paraître à titre posthume « Montaigne ». Ce texte, étrangement, est un antidote au geste de Zweig. En préface, le philosophe André Comte-Sponville souligne que cette esquisse de biographie sur laquelle travaillait Zweig était, comme il le souligne dans une lettre de décembre 1941, son autoportrait. En effet, Montaigne a vécu lui aussi la chute d'un monde dans les tourments. Zweig dépeint ainsi les promesses de la Renaissance de Montaigne. La réforme semblait fondée. À côté de la nouvelle ampleur du savoir, une nouvelle liberté religieuse. Les distances, les frontières entre les peuples disparaissaient. Car l'imprimerie, que l'on venait d'inventer, donnait à chaque mot, à chaque pensée, la possibilité de s'élancer, de se répandre. Ce qui était donné à un peuple semblait appartenir à tous. On croyait que, par l'esprit, une unité se créait au-delà de la sanglante querelle des rois, des princes et des armes. Toutes ces promesses, qui me rappelle celle qu'on me faisait d'Internet lorsque j'étais enfant, n'ont pourtant pas mené à l'unité escomptée. Comme le souligne Zweig, au lieu de l'humanisme, c'est l'intolérance qui triomphe. Dans toute l'Europe, une meurtrière guerre civile déchire chaque pays, tandis que dans le Nouveau Monde, la bestialité des conquistadors se déchaîne avec une cruauté sans égale. Que faire lorsqu'on a le sentiment que nous sommes sur le même chemin? Ces deux grands intellectuels ont vécu dans un moment de rechute de l'humanisme dans la bestialité, ce que Montaigne nous permet de penser et que Zweig n'a malheureusement pas su faire sienne, c'est cette capacité à rester droit dans nos pensées et nos valeurs. En effet, tout lecteur ou toute lectrice des essais savent qu'il fait partie de ces philosophes auxquels s'accrocher lorsque l'horizon s'obscurcit. Les chemins de traverse. Alors que la noirceur semble gagner du terrain et que la lecture de Montaigne et Zweig ne m'est pas suffisante, Mavrikakis est porteuse d'une lumière qui m'anime au moment d'écrire ces lignes. Dans son essai, on part à la rencontre des Américains dans toute leur complexité et leurs ambiguïtés. C'est ce regard tourné vers l'autre que j'aime. Il y a dans sa plume un goût pour l'avenir qui me manquait. La route de l'avenir n'est peut-être pas droite. Elle est zigzagante, chaotique, sinueuse, embourbée et parfois impossible. Mais elle existe. Alors qu'elle était ravie de voir les chemins de l'avenir fermés chez McCarthy, elle ouvre un nouvel imaginaire de la route, mais à sa manière. Le monde est fait de diverses temporalités qui coexistent, et si je ne crois plus à la route droite du progrès, je privilégierai les chemins de traverse, les détours de toutes sortes qui conduisent vers un passé en devenir, vers un futur qui n'est pas déjà tracé, qui n'est pas inéluctable. Alors que Montaigne invite à une humble probité, Mavrikakis m'invite à agir, parce que rien n'est encore écrit. C'était Dérouté, une chronique de Félix Morin, paru le 10 février 2025 dans Les Libraires.